la musique, Casse-Noisette et le Prince Igor.
Musique de Rimsky-Korsakov, Stravinsky, Tchaïkovski, Borodine. Au Cirque d'hiver le 20 décembre à 20h par l'Orchestre National de France et la Maîtrise de Radio France. Tous nos concerts au 01 56 40 15 16 et sur concert.radiofrance.fr.
Joyeux Noël!
Solidarité Philippine.
Radio France s'associe à l'appel à la générosité lancé par la Fondation de France. Envoyez vos dons
à Fondation de France, Solidarité Philippine, boîte postale 22 75 008 Paris ou sur fondationdefrance.org.
France Inter.
La voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et son répondeur. C'est parti.
Ben voilà, je suis âgé de 89 ans et je suis le fils d'un ancien combattant 14-18. J'ai écouté votre émission sur la guerre de 14 et le général Mangin. Moi, je suis né en 1924. Je n'ai pas fait la guerre, ni la résistance, ni l'Algérie. Que dalle, vraiment que dalle. Enfin, si, j'ai quand même fait autre chose, j'ai fait mon métier. Mon père, lui, était né en 1892. Il a fait plus de 6 ans d'armée. La guerre 14-18 en entier, avant la guerre, le service militaire, après la fin de la guerre, il a attendu la démobilisation pendant 9 mois. Bon, alors il parlait du général Mangin, surnommé, disait-il, le broyeur de noirs. C'est pour ça que je vous ai appelé. Vous avez parlé de boucher des noirs, mais le vrai surnom, son surnom, c'était le broyeur de noirs. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir.
Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Ça n'est pas jour de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale dans tous les pays. J'ai donc travaillé car je vis en Allemagne. Alors sur ma tournée de livraison, j'ai voulu m'arrêter un moment au pied d'un monument aux morts et je me suis recueilli un instant en hommage aussi aux soldats allemands. Il n'y avait pas un chat, pas une gerbe de fleurs, aucune décoration, aucun drapeau. Seulement un Français qui passait par là, qui voulait se rappeler un moment particulièrement tragique de l'histoire. Après être tombé au champ d'honneur, les soldats allemands sont maintenant tombés dans l'oubli. C'est pourquoi il est si important de conserver cette journée de commémoration. Oublier les victimes de la guerre, c'est les tuer une seconde fois. Franz, du pays de Bade, Allemagne.
Pendant de nombreux débats, télé ou radio, on a entendu quelques bobos dire au sujet de la Grande Guerre « Oh, et basta, toutes ces commémorations, c'est trop de cocorico, c'est trop de cocarde. » Eh bien, moi, je leur dis à ces bobos qu'ils sont de gros cons et que rien ne sera jamais trop excessif dans les hommages qu'on rendra aux poilus, qui sont des héros qui sont dans notre cœur, remplis pour eux de tendresse, de respect et d'admiration. Ces poilus sont notre histoire, nos racines. On a tous besoin de racines pour mener notre vie. Mes grands-pères, mes grands-oncles ont été des petits bourges de 17 ans, de 19 ans. On les arrachait au cocon familial, on les mobilisait et on les plongeait dans l'enfer de Verdun comme relieurs de tranchées, par exemple. Alors, vous êtes un des premiers bacheliers de votre département du Nord et vous vous retrouvez à Verdun à 17 ans dans la mitraille, le sang, la boue, la vermine. Vous avez tellement peur que vous vous pissez dessus. Vous avez honte, vous avez froid, vous avez faim, vous avez peur de devenir dingue. Eh bien moi je dis que vous êtes un héros et que vous méritez un hommage éternel.
Nous recevons ce 11 novembre un nouveau message de Marina Leda. Un nouveau procès s'ouvre contre 54 militants du syndicat andalou des travailleurs, parmi lesquels nos camarades Sanchez Gordillo, maire de Marina Leda, et Diego Cañamero Valle. Ils se sont rendus en manifestation jusqu'au tribunal supérieur andalou de Grenade et ont refusé de comparaître dans ce qu'ils considèrent comme un procès politique. Ils sont abusivement accusés d'avoir occupé une grande propriété agricole improductive du ministère de la Défense, Las Tulquillas, exigeant que la terre soit utilisée au service de tous. Des manifestants ont demandé que comparaissent à leur place les politiciens et banquiers ripoux. C'était Jean de Pau.
Le mercredi 13 novembre, les gosses restent dans leur lit douillet. On ne veut pas des rythmes scolaires tels qu'ils nous sont proposés là. Venez nous rejoindre devant l'école et l'on pourra faire bouger les choses. Voilà, c'était les parents d'élèves de l'école de Jussé en Haute-Saône. Et je vous promets que si vous revenez nombreux devant l'école maternelle, devant l'école primaire, avec nous tous. Je vous promets, l'année prochaine, je prends des cours de chant. Bye bye.
Merci pour tous ces messages, chers auditeurs modestes et géniaux, auditrices modestes et géniales. Merci, merci pour ces messages qui me parviennent ici, à New York, où nous sommes en reportage. Je ne sais pas les images qui vous parviennent des Philippines. Je pense qu'elles sont à peu près celles qui arrivent ici aux États-Unis. Et devant ces images, je crois qu'on peut vraiment parler d'obscénité compassionnelle, de pornographie compassionnelle. Parce que c'est les images qui nous parviennent sont terribles, poignantes, mais sans aucune explication. On n'a aucune explication sur les causes, sur les raisons, on n'a aucune analyse, aucune contextualisation de ce drame. On est face à l'horreur absolue, absolument démunie et réduite et assignée à l'émotion et à la compassion. C'est vraiment des phénomènes de véritable désinformation dans ces moments-là. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait étudier, en tout cas avoir la conscience. Émotion, bien sûr, compassion, évidemment, mais il faut des analyses, il faut des informations, il faut des faits pour comprendre ce qui se passe et véritablement faire de l'information. Or, sur les télévisions américaines, absolument rien de tout ça, et dans ces moments-là, ça se manifeste d'une manière encore plus crue et, je dirais, plus brutale. Aujourd'hui, dans Là-bas, si j'y suis, Pierre Bourdieu, un livre document, événement, sort ces jours-ci, Manet, simplement intitulé Manet, en effet, les deux dernières années de sa vie. Pierre Bourdieu les a consacrées à des cours qu'il a donnés au Collège de France sur Manet, en considérant que Manet représente une révolution symbolique réussie. Alors c'est un événement, c'est un gros bouquin, extrêmement précieux, extrêmement important, et qui pour l'instant va clore notre approche de l'art, de la peinture, avec notre virée à la FIAC, trois réacs à la FIAC, avec Régis Debray et son livre, et puis aujourd'hui Bourdieu qui regarde, analyse, et alors lui pour le coup contextualise complètement Manet dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire tout court, dans la sociologie, et met en lumière eh bien cette révolution symbolique réussie. Pour parler de tout cela, Christophe Charles, l'historien Christophe Charles, un proche de Pierre Bourdieu, qui était un proche de Pierre Bourdieu, et puis Patrick Champagne, sociologue, lui aussi proche de Pierre Bourdieu et qui a assisté à l'élaboration de ce travail de Pierre Bourdieu, et tous deux ont participé à la réalisation de ce livre, donc Manet de Pierre Bourdieu. Alors, vous allez pouvoir sur le site, à nouveau sur le site là-bas.org, là-bas.org, cliquer sur les tableaux dont nous allons parler ensemble, les tableaux de Manet. Vous allez sur là-bas.org tout de suite et vous allez pouvoir suivre les explications, les évocations en regardant les tableaux. Voilà. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, c'est Lily. C'est pour te demander où est passé Serge Levaillant. Je n'entends plus de ses nouvelles à France Inter. J'aurais juste aimé savoir ce qu'il devient. Je te remercie. Au revoir.
À cette question d'un journaliste, Monsieur le Président, comment réagissez-vous à la nouvelle dégradation de la note de la France par Standard & Poor's ? François Hollande a déclaré « Je ne réagirai pas. Je considère que Standard & Poor's ainsi que les autres agences de notation sont des organismes tout à fait dénués de crédibilité et qu'ils devraient n'être tenus aucun compte. En effet, leurs critères pour noter les pays et les sociétés sont des critères totalement tronqués qui ne tiennent pas compte de l'intérêt général mais de l'intérêt des plus puissants. J'invite donc mes ministres ainsi que tous les hommes politiques de ce pays, qu'ils soient de gauche ou de droite, et au-delà tous les chefs d'État du monde entier et tous les hommes politiques du monde entier, à réagir comme moi en opposant un mépris définitif à cette bande de guignols. Et là, je me suis réveillé.
Oui, bonjour à tous les AMG, plus particulièrement aux Brétiliens et Brétiliennes, pour vous rappeler la première du Café Repère de Liffré ce mercredi à partir de 19h, au bar L'Entretemps au centre-ville. Alors venez nombreux, mercredi 13 novembre, à partir de 19h. Voilà, c'était Pascal de Liffré.
Pour bien regarder un tableau, il faut être prêt si on veut regarder la technique, mais pour bien regarder le tableau, pour le plaisir de le regarder pour lui-même, il vaut mieux être loin. Et encore plus quand il s'agit d'une peinture impressionniste pour que les yeux fassent le mélange des couleurs. Mais ce n'est pas le cas ici.
Édouard Manet, je ne sais pas qui c'est.
Moi, je suis venu voir ce tableau parce qu'il est tellement connu que...
Déjeuner sur l'herbe.
Je vois des fruits, des gens qui pique-niquent, de l'eau, des messieurs et des dames.
Il rappelle cette phrase de Flaubert... En disant que ça s'applique parfaitement à Manet, c'est peindre bien le médiocre.
Ouais.
Et de manière telle que le médiocre n'est pas une influence sur le peindre bien.
Puis c'est tout. Hein.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Christophe Charles et Patrick Champagne, Pierre Bourdieu, Manet.
Flight number 2.
Il n'y a pas une touche de Manet qui ne soit pas intelligente. Pablo Picasso. Ça ouvre bien cet entretien qu'on va avoir, Patrick Champagne et Christophe Charles, autour du bouquin qui sort, Pierre Bourdieu, Manet, une révolution symbolique. Alors vous êtes tous les deux impliqués dans la publication de ce bouquin, au Seuil, dans la collection Raison d'agir. Et c'est, on peut appeler un événement que cette publication, qui part des cours que Pierre Bourdieu a donnés dans les deux dernières années de sa vie, au Collège de France, une dizaine de cours, 9 cours, je crois, sur Manet, mais qui fait suite à un long travail... sur la peinture. Et ce qui est intéressant, évidemment, là-dedans, et qui est un peu provoquant, c'est Manet, une révolution symbolique. Alors, dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous avez fait sur ce bouquin? Quel travail vous avez fait l'un et l'autre, Christophe Charles?
Alors, moi, je me suis plutôt occupé de la deuxième partie, c'est-à-dire le manuscrit inachevé. Donc, nous avons, avec Pascal Casanova, édité le manuscrit, parce qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Et puis, nous avons aussi vérifié, disons, certaines données, parce que c'était parfois des notes un peu signalétiques, rapides.
Et des copies. C'est un manuscrit inachevé. Hein.
Voilà, c'est un manuscrit inachevé, donc qui n'a jamais relu, qui n'a pas... Il avait encore des parties qu'il n'avait pas écrites, donc il y avait tout un travail d'édition et de précision. À la différence du cours, là, dont s'est plutôt occupé Patrick Champagne, où là, nous avions évidemment un discours continu, puisqu'il était enregistré par le Collège de France, plus, je crois, des notes qui permettaient, en plus, de compléter le cours.
Sacré boulot, Patrick Champagne.
Oui, c'est un travail énorme. Le problème de la mise par écrit de ces cours, c'est que le fait d'être trop fidèle à la transcription, ça devient parfois presque illisible. Donc il y a un travail de garder à la fois le style oral, mais le rendre lisible pour rendre le texte le plus intelligible possible.
Alors, Manet, on se dit, oui, bon, ben Manet, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut bien avoir de révolutionnaire que on connaît tous, enfin, beaucoup, les peintures de Manet, le déjeuner sur l'herbe, Olympia. On voit mal le mot révolution à coller à Manet aujourd'hui. Or, Bourdieu nous dit, mais si. Mais si, et c'est toute la difficulté qu'il a eue dans ce travail, dit-il, c'est de rebrousser chemin à cette banalisation, le qui va de soi de Manet, pour montrer qu'il y a bel et bien eu, dans l'œuvre de Manet, dans la démarche de Manet, dans l'esprit de Manet, vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça, une révolution symbolique qui a ouvert l'époque de l'art moderne.
D'abord, il faudrait peut-être préciser qu'est-ce que ça veut dire révolution symbolique.
Oui, ben c'est ce qui m'intéresse, bien sûr.
C'est une révolution dans les catégories de perception. Quand Manet a produit ses tableaux, il a suscité des réactions d'une très très grande violence, de refus, de rejet, qui manifeste le fait qu'il engageait de nouvelles manières de considérer de faire la peinture, non plus comme un moyen pour représenter un certain nombre de scènes qui étaient fortement cataloguées dans ce qui était représentable, c'est-à-dire les puissants, c'est-à-dire les batailles, la religion, il y a tout un catalogue comme ça de sujets obligés. Avec Manet, la peinture n'est plus un moyen au service de ses fins, mais la peinture est au service de la peinture.
Christophe Charles, quand même, Manet était un bourgeois, même un grand bourgeois. Encore une fois, si on voit bien chez Courbet le révolutionnaire, Courbet, le communard, Manet va se mêler un peu à la commune, mais après il prendra des distances avec la violence des communards. Il était républicain, donc opposé au pouvoir de son époque. Enfin, ça, sur le plan politique, est-ce qu'on peut dire qu'il était révolutionnaire ?
Non, c'est plutôt qu'ils choisissent de s'abstraire de l'ordre établi de la peinture. Il ne s'agit pas de dire qu'ils s'abstraient de l'ordre établi, de tout l'ordre établi. Ils s'abstraient de l'ordre établi de la peinture, c'est-à-dire telle qu'elle est définie par la peinture académique de cette époque. Et ça peut être donc une rupture formelle, mais ça peut être aussi une rupture par le sujet. Alors c'est vrai que chez Courbet, il y a les deux. Il y a à la fois la rupture formelle et la rupture par le sujet. Chez Manet, ça peut être tantôt le sujet, tantôt formel. Ça dépend des tableaux. Olympia n'est pas un tableau révolutionnaire en soi par le sujet. C'est une femme nue, c'est un tableau extrêmement classique en termes de thème. Simplement, c'est un certain regard sur la nudité, c'est une autre façon de proposer la nudité qui est complètement en décalage par rapport à ce à quoi les gens étaient habités. Donc c'est en ce sens-là que c'est révolutionnaire.
Manet institue un univers dans lequel plus personne ne peut dire qui est peintre et ce que c'est que de peindre comme il faut.
Christophe Charles, qu'est-ce que Manet disait de Manet ? Là, c'est Bourdieu qui parle de Manet. Il aborde par plusieurs côtés, plusieurs angles, plusieurs conditions. Mais qu'est-ce que Manet disait de lui-même, de son travail, de son œuvre ?
Ben, on est un peu désemparés parce qu'on a souvent des témoignages qui sont indirects par ça peut être des écrivains, des journalistes, des amis d'enfance. Hein. Antonin Proust, par exemple, raconte ses souvenirs d'enfance parce qu'il a été au lycée avec Manet, il a connu Manet pendant une longue période de sa vie. Donc, il faut faire attention à ce type de témoignage parce que c'est déjà des gens qui parlent de quelqu'un qui est déjà célèbre. Quand ils en parlent, sinon ils n'en parleraient pas. Donc ils créent parfois une légende où ils accentuent parfois certains traits de caractère. Quand il a fait une exposition personnelle en 1867, il y a un petit catalogue avec un petit texte au début où il explique un peu son projet. Et ce qu'il dit, c'est « je veux qu'on me regarde tel que je suis et non pas tel que les gens voudraient que je sois ». Donc il affirme cette autonomie du peintre. Donc ça, c'est effectivement aussi ce sur quoi insiste beaucoup Bourdieu. Et il y a aussi cette idée de « je sais ce que c'est que la peinture, puisque j'ai appris la peinture comme tout le monde hein. ». Il a passé plusieurs longues années dans l'atelier de Thomas Couture, mais je veux qu'on fasse une peinture qui ne soit plus simplement une peinture d'école qui reproduit les modèles. Donc il affirme son originalité. On a des témoignages de gens qui ont participé à des séances de pose avec lui. Alors là, c'est déjà des choses moins publiques, où il demande aux gens d'être naturels. Bon, alors évidemment, qu'est-ce que c'est qu'être naturel ? Mais en tout cas, ça veut dire ne pas adopter des poses convenues que l'on souhaite dans l'art académique. Essayer de révéler ce qu'on est réellement, au lieu de projeter une espèce d'image de soi officielle ou conventionnelle, etc. Donc, on voit qu'il y a un souci de l'authenticité, de la sincérité. Quand on regarde, évidemment, la suite des tableaux de Manet, il y a des évolutions très sensibles. Donc, c'est quelqu'un qui cherchait, enfin, comme on dit, qui n'était jamais satisfait d'une version. Et on voit bien qu'il y a des périodes dans sa vie, les premières périodes où il se confronte aux tableaux anciens, où il reprend des sujets de tableaux anciens et il les traite à sa manière pour montrer à la fois qu'il sait
Goya,
faire des tableaux.
Goya, l'Espagne, etc.
Voilà,
oui.
Goya, les tableaux espagnols. Mais en même temps, il y apporte sa touche personnelle et il montre que ce sont des tableaux d'aujourd'hui, non pas des reproductions des tableaux anciens. Et puis après, il va inventer ses propres sujets et puis il va de plus en plus s'éloigner de toutes sortes de conventions. Donc on voit bien que c'est un processus de construction progressif de cette révolution et qui va de plus en plus loin parce que justement, au lieu d'accepter la critique qu'on lui renvoie et les rejets du public, il le défie à chaque fois un peu plus. C'est pour ça aussi que Bourdieu emploie ce terme de révolution symbolique.
Réussie. En quoi est-ce que cette révolution symbolique est réussie, Patrick Champagne ?
Elle est réussie parce qu'elle ne choque plus. Non seulement elle ne choque plus, mais ce qui devient presque choquant, c'est qu'elle est plus choquée
en son temps.
Ce que Bourdieu essaye de faire, c'est de faire une science des œuvres, c'est-à-dire de passer, en gros, d'une analyse de ce qu'il appelle d'une manière plus générale les lecteurs à une sociologie des auteurs. C'est-à-dire essayer de comprendre comment Manet était amené à peindre, qu'est-ce qu'il y avait dans Manet de culture, d'expérience, de la peinture, etc.
Et il se met pas du côté du spectateur, il se met du côté de Manet.
Il a par exemple un passage amusant dans lequel il dit qu'il y a cette espèce de manière de percevoir les tableaux comme « ça me fait penser à ». Ça me fait penser, alors, c'est assez drôle.
Enfin, ça peut donner des choses assez formidables quand c'est Proust qui regarde Vermeer, par exemple.
Oui.
Quand c'est Proust qui interprète Vermeer, qui se projette complètement sur Vermeer, Proust n'essaye pas de se mettre à la place de Vermeer. C'est Proust qui regarde et qui imagine quelque chose à partir de...
Non, mais surtout, ça permet de comprendre mieux Proust que Vermeer, en fait.
C'est ça, voilà. Tandis que là, Bourdieu essaye de faire comprendre Manet.
Voilà.
C'est ça la grande différence, et c'est ça ce très long travail. Il a travaillé combien de temps là-dessus ?
Le premier texte où il y a vraiment cette idée de la révolution symbolique, je crois que c'est l'article qu'il a publié dans une revue assez confidentielle, qui sont les cahiers du Musée d'Art Moderne. Donc c'est la fin des années 70, début des années 80, et dans le premier projet qu'il avait, c'était de traiter en fait Manet, Flaubert et Baudelaire ensemble dans les règles de l'art. C'est pour ça que le livre s'appelle Les règles de l'art. Et d'ailleurs, il y a des morceaux du manuscrit là, que nous avons édité où il y a des reprises des règles de l'art. Donc on voit bien que c'était deux livres jumeaux, ou en tout cas deux parties du même livre, qui ont été peu à peu dissociées, donc au moment où les règles de l'art sont publiées, donc en 92. Et après, donc il a repris le projet pour le relancer sur ses bases autonomes, donc à travers le cours fin des années 90. Et puis le manuscrit, je pense qu'il se situe au milieu des années 90. Il a porté ce sujet une vingtaine d'années, pratiquement.
Vous qui l'avez bien connu tous les deux, est-ce qu'il s'identifiait un peu à Manet ? Est-ce qu'on peut... C'est la fin de sa vie, l'hérésiarque.
C'est un peu ce que
l'hérésiarque
dit,
Manet.
C'est un peu ce que dit Pascal Casanova dans la postface du livre, bon, tout en prenant évidemment des précautions, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'analogies, cette volonté de révolutionner la sociologie, de changer les catégories de perception du monde social. Mais en même temps, bien sûr, il veut être quand même un savant, il veut être dans l'ordre de la science. Il n'est pas un artiste au sens de quelqu'un qui est dans l'ordre de l'esthétique.
Oui, même donc, si on peut considérer que Bourdieu, c'est une révolution symbolique réussie également.
A réussi, on ne sait pas, puisqu'il y a encore des gens qui le contestent, donc c'est peut-être un peu tôt.
Ça peut être un peu tôt.
Tandis que Manet, je crois que personne, même dans les gens qui sont conservateurs, personne ne dit que Manet n'est pas un grand peintre. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais entendu ça. Tandis qu'il y a encore des gens qui disent que Bourdieu n'est pas le grand sociologue que certains prétendent. Donc c'est encore une révolution en cours.
Ça vient quand même.
Oui, ça vient, mais c'est encore en cours.
Du jour où Manet fait son coup, plus personne ne peut dire qui est peintre.
Pierre Bourdieu, 1988.
Et autrement dit, on passe du nomos à l'anomie, c'est-à-dire à un univers dans lequel tout le monde est légitimé à lutter à propos de légitimité.
Restons toujours sur cette révolution symbolique. Dans quelle conditions se produit cette révolution symbolique dans le cas de Manet, et il y a les conditions historiques. Manet, on l'a déjà évoqué un peu, il est dans son histoire, il est dans son présent, il est lié aussi à l'histoire de la peinture, on vient de le dire aussi, la peinture ça s'articule d'un peintre à l'autre, on voit bien Manet qui détestait Courbet, donc on se dit qu'il peint par rapport à, très souvent, donc il est inscrit dans cette histoire-là aussi. Il a sa propre histoire, vous l'avez évoqué, sa condition sociale, il y a peut-être des affects personnels, des blessures, des ruptures, que sais-je, qui vont l'inspirer, qui vont lui faire faire telle ou telle chose plus qu'une autre, etc. Très souvent, les artistes sont dans une certaine apesanteur sociologique, hein. C'est des gens qui n'ont pas les nécessités des autres catégories. Mais là aussi, ça a une importance, les conditions matérielles de Manet, l'influence de son marchand, etc. Il y a encore d'autres raisons, il y a d'autres causes qui vont faire que, qui vont voir se dérouler cette révolution symbolique. Patrick Champagne.
Disons qu'il va appliquer à Manet ce qu'il a déjà appliqué. Enfin, il y avait un article très important qu'il a fait qui s'intitule L'illusion biographique. Et lui-même, dans des textes, a essayé de faire la sociologie de Bourdieu. Enfin, et il a fait la même chose pour Manet. C'est-à-dire que dans une biographie classique, on raconte l'enfance, l'adolescence, le développement de l'individu en question, etc. C'est-à-dire qu'on commence par l'individu dont on fait la biographie. Bourdieu, à la fois pour lui-même et pour Manet, il utilise une autre technique qui consiste d'abord à faire un état du champ dans lequel un individu va arriver. C'est-à-dire quel est l'état de la peinture quand naît Manet. Bon, il explique que c'est une peinture, il y a la peinture pompier, c'est une peinture fortement institutionnalisée, une peinture où l'État est omniprésent, etc. Et ensuite, il va s'interroger sur quelles sont les propriétés que devait avoir Manet quand il va rentrer dans cet espace qui est structuré d'une certaine manière
pour opérer les bouleversements qu'il va opérer. Donc c'est un peu en deux temps. La première année du cours est fortement consacrée à faire une espèce de bilan d'état de la situation, et notamment d'analyser assez longuement ce que c'est que la peinture pompier. Et la deuxième année, il va progressivement analyser tout le capital social, culturel, économique que possédait Manet, qui avait une culture énorme, pour comprendre comment il a pu contester et réussir sa manière d'imposer une nouvelle peinture, de nouvelles manières de percevoir ce qu'était la peinture.
Quand il arrive, comme vous dites, Patrick Champagne, il n'y a pas que la peinture pompier quand même. Ça, c'est la peinture académique, institutionnelle, le 19e siècle. C'est une vieille histoire, celle de la peinture.
C'est la peinture qu'on voit aujourd'hui dans les musées. C'est une peinture dominante. Il faut quand même faire entrer...
Oui, mais enfin, on a Delacroix, qui est déjà en partie en rupture. On a déjà évoqué Courbet. On pourra parler de l'école de Barbizon. Il y a quand même déjà des peintres. On a inventé le tube de peinture, vous savez. Il y a un moment, on invente le tube de peinture.
Oui, qui permet de peindre à l'extérieur.
Qui permet de peindre à l'extérieur. Donc, les gars sortent, ils vont peindre des arbres, des vaches, etc. Donc, il n'y a pas que la peinture pompier, quoi. Il y a aussi des influences indirectes. Le 19e, c'est la révolution industrielle. Et alors, on connaît cette toile fameuse de Manet sur le pont avec les vapeurs d'un train qui passe.
C'est ça, la femme avec la petite.
Avec la gamine, très belle peinture. Oui. Mais voilà, la révolution industrielle a son importance, son influence. Peut-être dans la rapidité de Manet à exécuter, à travailler plus vite, à moins préparer probablement les toiles qu'on ne le faisait auparavant. Est-ce que Bourdieu évoque cet aspect des choses, l'influence indirecte de la révolution industrielle du temps.
Ce qui est important plus que la révolution industrielle, c'est le sentiment, en tout cas, de la génération de Manet. Il est né en 1832, donc il a 20 ans en 1852. Donc, à la fois le sentiment qu'on est dans une époque de grands bouleversements, alors économiques, comme vous le dites, mais aussi politiques, intellectuels. C'est aussi le moment où commence le socialisme utopique, etc. Donc, il y a toute une effervescence dans tous les domaines. Et son sentiment, c'est qu'on continue de vouloir maintenir une peinture, effectivement, bon, pompier ou académique ou officielle, dans un monde qui est complètement différent. Donc, lui et d'autres, Courbet, Delacroix également, ont un peu ce sentiment-là, qu'il faut une nouvelle peinture parce qu'on est dans un monde nouveau. Donc je crois qu'il y a aussi ce sentiment d'un nouveau moment historique. C'est pour ça aussi qu'il va choisir des sujets qui font polémique, parce que c'est pour bien montrer qu'il est en prise sur cette époque nouvelle. Alors, tous les facteurs que vous avez évoqués, effectivement, jouent un rôle pour donner soit des éléments positifs ou négatifs pour changer la peinture. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les peintres étaient confrontés à ça. Or, tout le monde n'a pas fait ça. Hein. Donc, ce qu'il faut à la fois expliquer, c'est ces conditions générales qui font qu'évidemment, on est dans un moment où les gens se posent des questions nouvelles, mais tout le monde ne relève pas les défis. Tout le monde n'accepte pas d'aller jusqu'au bout de ce projet. Donc il faut articuler, hein, c'est ça le projet de Bourdieu, articuler cet état du champ artistique, politique, intellectuel, et l'habitus, c'est-à-dire les caractéristiques spécifiques de Manet qui permettent d'expliquer pourquoi c'est lui qui a joué ce rôle-là et pourquoi il a été jusqu'au bout de ce projet, alors que d'autres l'ont commencé, hein, les peintres de Barbizon rompent sur certains points, Delacroix rompt sur d'autres, etc. Donc chacun a apporté un peu sa pierre, mais lui est allé complètement jusqu'au bout du projet.
Bourdieu dit à un moment donné, quand on est sociologue, on ne peut pas se contenter d'une formule du genre « Manet est un type extraordinaire qui, dans une situation extraordinaire, a fait des choses extraordinaires ». Bon, ce à quoi se limite peut-être bien souvent un certain nombre d'articles, etc., d'analyses.
Donc c'est toute la difficulté de rendre compte de l'exceptionnel tout en le rendant explicable.
Je vois une femme qui se baigne, hein, qui se trempe les pieds dans l'eau, à l'arrière-plan, donc un étang, et puis ça va doucement jusqu'à l'horizon.
Édouard Manet.
Avec des tons extrêmement fondus, extrêmement doux.
Le déjeuner sur l'herbe.
Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. À travers mes paupières entrouvertes, l'air bleu. Ton visage à l'envers sur ton buste, un baiser que tu me donnes à boire, à se croire dans un tableau d'Auguste Renoir. Un chardonneret qui s'y flotte,
dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, un verre, un signe.
Alors on continue avec le bouquin de Pierre Bourdieu, Manet, une révolution symbolique, qui vient de sortir au seuil de la collection Raison d'agir. On est avec Patrick Champagne, qui est sociologue, et Christophe Charles, qui est historien, et qui ont travaillé à la réalisation de ce livre, et qui étaient des familiers, des proches de Pierre Bourdieu. Moi, je voudrais savoir pourquoi ça s'est passé en France, cette histoire-là. Manet est français, quand même. Hein. Et cette histoire est très française. Pourquoi chez nos voisins
dans ces cours des années 90, Bourdieu analysait la montée progressive de l'emprise étatique dans le monde social. Avec le livre sur Manet, enfin ses travaux sur Manet, c'est paradoxalement un livre sur le retrait de l'État d'un secteur particulier, mais le retrait de l'État. Et donc, je pense que c'est une des clés aussi pour comprendre pourquoi en France c'est qu'il y avait un rôle de l'État. Mais enfin là, je pense que Christophe Charles a beaucoup plus à dire que moi. Mais il y avait un rôle de l'État extrêmement important. Auquel finalement on assiste.
En matière de peinture,
matière de culture, de
beaux-arts, etc.
Depuis la monarchie, en fait, c'est une vieille histoire. L'État intervient beaucoup plus que dans tous les autres pays pour donner des normes, former des écoles avec l'école des beaux-arts, la Villa Médicis, enfin, toutes ces institutions.
Est-ce que ça veut dire que Manet illustre ça?
En tout cas, il se heurte à un monde où l'État est présent. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'insistais sur la révolution de 48, parce que la révolution symbolique en peinture a été aussi partie liée à la révolution politique, puisque en 48, c'est la première fois où le salon est libre, c'est-à-dire l'État, enfin la République décide qu'il n'y aura plus de jury, que tous les peintres auront le droit d'exposer, donc on a une explosion, 6000 œuvres au lieu de 3000 d'habitude, donc il y a un climat de liberté, donc c'est à la fois lié au fait qu'en France l'État effectivement joue un rôle tout à fait central dans la vie culturelle, et en même temps la France est un pays où il y a des ruptures politiques révolutionnaires tout au long du 19e siècle, et en particulier à la génération de Manet avec 48, donc c'est un élément d'explication, c'est ce côté central de l'État dans la culture, et en même temps le fait que l'État est chahuté à ce moment, et les peintres participent de ce chahut général, qui n'est pas seulement pictural, il est aussi social, il est aussi démocratique, etc. Donc on a une conjonction de facteurs dont on n'a pas l'équivalent, puisque, bien sûr, en Angleterre, il n'y a pas eu de révolution de 48, en Allemagne, il y en a une, mais elle a échoué. Donc il y a une conjonction très politique et en même temps très spéciale qui font que cette génération de peintres a pu se poser cette question dans des termes tout à fait nouveaux par rapport à ce qui se passait dans d'autres pays ou par rapport même à ce qui se passait à la génération d'avant.
Mais ce qui va faire que la France, et Paris, hein, oui, c'est plutôt Paris qu'on aurait dû dire.
Tout
on aurait dû dire,
Paris,
oui, tout se passe à Paris, en France, tout se passe
en
à Paris.
En tout cas, pour la peinture et pour la politique, tout
voilà,
se passe à Paris.
Ce qui va faire qu'après Manet, la scène de la peinture, enfin des beaux-arts, ça va être Paris, quoi, jusque dans les années 60. Il y a une suite à cette histoire.
Oui, parce que justement, cet événement, cette révolution symbolique qui réussit plutôt à Paris qu'ailleurs, va donner des idées aux autres peintres des autres pays, et beaucoup vont venir à Paris pour s'imprégner, en fait, de cette nouvelle atmosphère qui les libère des conventions et des contraintes qu'ils ont encore dans leur pays. Donc il y a aussi ce côté terre promise pour les artistes des autres pays. Donc ça montre bien la centralité à la fois de la scène politique, de la scène artistique, ouais, et de la France dans l'Europe de cette époque. Et plus que l'Europe d'ailleurs, puisqu'il y a des Américains aussi qui viennent.
Et tout se réfère à Manet. Je parlais de Picasso tout à l'heure en commençant. Il y a une série fameuse de toiles de Picasso dans les années 60.
Oui, oui, il refait le Déjeuner sur l'herbe à sa façon.
Il interprète toute une série de Déjeuner sur l'herbe. Enfin, il se lance dans une série d'interprétations du Déjeuner sur l'herbe.
Je vois un oiseau qui vole. C'est très rare. C'est un instant, comme un photographe. C'est pas un grand pique-nique. Et ce n'est pas à manger. C'est à peindre et pas à manger.
Patrick Champagne, vous étiez un familier de Bourdieu. À quoi ça ressemblait une journée de Bourdieu? J'ai entendu dire par des amis que à 6h du matin, 7h du matin, il appelait les gens pour leur demander des explications ou donner des explications. C'était un bosseur fou, ce Bourdieu.
Oui. On a reproduit d'ailleurs dans le livre deux pages, l'une de ses notes de cours et l'autre des notes préparatoires au manuscrit inachevé.
Et je pense que ces pages reproduisent assez bien la complexité de la pensée de Bourdieu, le nombre de choses qu'il essayait de mettre en relation et qui se traduisaient aussi dans son écriture. Enfin, la complexité du monde est telle que, pour en rendre raison, il faut souvent avoir un style extrêmement compliqué. Donc il avait à la fois une capacité de travail hors du commun, enfin, là, ce que vous évoquez, je parle tous les détails, mais il avait eu...
Il dormait pas beaucoup.
Il dormait pas beaucoup.
Alors, il y a un mot sur lequel je voudrais vous interroger, quand même, puisque vous êtes en train de parler de langage parfois savant, pour pas dire hermétique, de Bourdieu, c'est dispositionnel. Le dispositionnalisme. Voilà un mot qui revient, et plus que ça, dans son travail sur Manet.
Oui, alors ça fait partie du projet qu'il avait en écrivant ce livre, c'est-à-dire comprendre non pas les choses telles qu'on les voit, mais comment elles ont été construites, comment elles ont été conçues avant même qu'elles se projettent sur la toile. Donc, c'est-à-dire reconstituer le processus de genèse, d'une touche de peinture, à la limite c'est ça, ou du choix d'un sujet, du choix d'un cadrage, du choix de l'harmonie des couleurs, ou au contraire de la disharmonie des couleurs, le choix de... Enfin, tout ce qui fait qu'un tableau est un tableau, mais le reconstituer dans un processus intellectuel antérieur à sa projection sur la toile. Donc, pour Manet, je pense qu'on peut arriver presque à le faire, parce qu'on a une masse d'informations, d'analyses, d'études, même de chaque tableau à travers les esquisses, etc. Bon. Mais c'est donc presque se mettre à la place du peintre, se resituer dans ce qu'il attend, dans ce qu'il voudrait faire, dans ce qu'il n'arrive pas à faire, ou dans ce qui l'empêche de le faire. Donc, il y a aussi l'idée de la censure. Hein. Qu'est-ce qui permet à un peintre de se libérer d'une censure de l'art établi ou de tel sujet qui n'est pas conforme à la morale de l'époque. Enfin, il y a toutes sortes de freins que nous, on ne conçoit plus, parce que l'époque s'est beaucoup plus libérée que celle du 19e siècle, mais dans les sujets de Manet, il y avait aussi ça, qui jugeait Olympia, elle fait scandale, pas seulement parce qu'elle est peinte d'une certaine façon, mais aussi parce qu'elle incarne une certaine image de la femme, et cette femme, les contemporains l'identifient à une prostituée. Donc, comment une prostituée peut-elle être un sujet digne d'être mis en peinture? C'est déjà en soi un défi, puisqu'il y a des sujets convenables et pas convenables au 19e siècle. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut reconstituer pour vraiment comprendre à la fois l'audace, parfois aussi la limitation politique
majeure. Il y a des libertés que prend Manet par rapport à la peinture. Si je pense au bar des Folies Bergères, par exemple, avec cette femme magnifique, etc. Mais on voit sur la partie droite du tableau un homme qui est très proche d'elle alors qu'elle est face à nous.
Oui,
donc il y a des jeux avec la perspective, des incongruités avec la perspective. Où est-ce qu'il y a un miroir là? Non, etc. Comme la femme qui est au fond, dans le fond du déjeuner sur l'herbe, qui n'est pas la bonne taille,
les conventions. Il y a une rupture avec les conventions académiques.
Voilà, et ça il le sait parfaitement, parce qu'il sait parfaitement comment...
Parce qu'il les a apprises, donc il les connaît.
Il les a apprises, il sait très bien comment on pose une figure dans un paysage, etc. Donc il dit non, je vais représenter ça comme ça. Donc il y a une volonté dont on ne sait rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Manet, dans la main de Manet, dans l'œil de Manet, quand il peint cette chose-là? C'est ce que voudrait bien comprendre Bourdieu.
Bah oui,
et nous faire comprendre, hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Finalement, en vous écoutant, on se dit, c'est un miracle, Manet. Parce qu'il n'avait aucune raison de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Manet? C'était un bourgeois, tranquille, dans son époque, avec une belle vie. Il aurait pu vivre, comme, je sais pas moi, comme Degas ou tous ces gens-là, qui étaient très habiles.
Degas aussi, il fait des ruptures.
Oui, Bourdieu a une phrase dans un de ses cours qui traduit un tout petit peu le fait que c'était assez étonnant, effectivement. Il dit, il appartient à ces révolutionnaires symboliques, c'est-à-dire ces individus improbables, très étranges, qui retourne la maîtrise qu'ils possèdent d'un système contre ce système lui-même pour le subvertir.
Alors qu'ils sont dedans,
et qu'ils pourraient en bénéficier de manière considérable. Et ils choisissent une voie qui, au contraire, les fait percevoir comme des fous. D'ailleurs, à plusieurs reprises, ils posent la question, c'est comment Manet a fait pour ne pas se suicider dans le monde de contestation de son œuvre qu'il a vécu.
Et alors qu'il n'a pas l'air d'un révolutionnaire. lui-même physiquement, si on regarde les photos qu'on a de lui, les portraits qu'il fait de lui-même, et le portrait qu'il fait de son entourage social, son milieu social, c'est des chapeaux birflés.
Bourdieu non plus n'était pas habillé en révolutionnaire.
Oui, il n'était pas déguisé. Voilà. Peut-être se méfier des révolutionnaires déguisés en révolutionnaires.
Oui, peut-être.
Non, je crois que parce que justement il a ses atouts sociaux, c'est-à-dire il n'est pas dépendant de la peinture en tant que moyen de vivre. Donc c'est le fait d'être un bourgeois qui lui donne cette liberté. S'il avait dépendu de sa vente pour vivre, il n'aurait certainement pas continué. Il aurait fait quelques tableaux un peu révolutionnaires, mais il aurait très vite compris qu'il valait mieux faire autre chose.
Il avait dans la tête et dans l'œil une culture de son époque, une culture de la peinture de son époque absolument considérable. Là, on parle de révolutionnaires symboliques, c'est-à-dire de gens qui ont un capital absolument énorme de connaissances à partir duquel se fait...
Et de travail. Oui, c'est ça. Il n'y a pas tout d'un coup un génie qui tombe comme ça. Christophe Charles.
Non, et puis je crois qu'il y a l'idée que, justement, à quoi bon faire de la peinture si c'est pour faire ce que font les autres ? Enfin, il y a quand même aussi cette... certains peintres disent, bon, si c'est pour refaire du Delacroix ou pour refaire du... Bon, à quoi bon ? Donc, il faut trouver sa manière. À partir de la culture que j'ai, à partir de tout ce que je sais de la peinture, il faut que je construise ma propre peinture. Donc, c'est quand même aussi le défi de l'identité, de se trouver sa propre personnalité face à des personnalités quand même très écrasantes, comme celle de la génération d'avant, puisqu'il y a David, il y a Delacroix, enfin, il y a des grands... Il y a Courbet, donc il y a un sentiment d'orgueil. Donc ça, on voit bien, là, ça a partie liée aussi avec cet éthos bourgeois qui est l'individu. C'est pas justement un hasard si c'est un bourgeois. C'est parce que le bourgeois se pense comme un individu singulier. Et là, il faut faire une peinture singulière, différente de toutes les autres.
D'autant plus que le passage par les ateliers, que Bourdieu évoque longuement aussi, produisait des individus qui faisaient la peinture de manière semblable.
Convenu,
oui.
Oui, il faut obéir aux règles, il faut suivre ce que dit le maître, etc.
Il faut, oui, bien sûr, les écoles, les ateliers des beaux-arts, on faisait de l'académie, on faisait tout ce qu'il fallait, ensuite il y avait les salons.
Et Bourdieu rappelle que la catégorie artiste n'existait pas encore, elle s'est créée justement au 19e, dans la deuxième moitié, la catégorie artiste telle qu'on l'entend actuellement et qui est à l'origine finalement de la naissance d'un champ artistique, à proprement parler, c'est-à-dire d'un univers qui va se libérer de l'emprise étatique.
Le noir. Les bleus,
voilà.
Les verts, s'il vous plaît. Plus fort, plus de courage. Les jaunes, les rouges. Tous ensemble. Merci, messieurs.
Patrick Champagne, vous disiez, oui, on se demande où Manet trouvait la force de résister à l'ordre établi. Enfin, il avait quand même des soutiens. Il avait le soutien de Baudelaire. Il a eu le soutien de Zola, par exemple, ce qui n'est pas mince, quand même. Mais...
Oui, sauf qu'à l'époque, Zola
n'était pas encore Zola.
Zola n'était pas encore Zola et Manet n'était pas encore Manet.
Et Baudelaire était Baudelaire, quand même, non ?
Mais ce n'était pas, quand même, l'écrivain le plus central de l'époque. Donc, est soutenu par, justement, des gens qui, eux-mêmes, sont des gens qui veulent se distinguer ou qui sont un peu en marge. Donc, c'est logique. Hein, c'est logique que les gens marginaux, ou en tout cas qui sont en rupture, se soutiennent entre eux. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi tenir le temps d'accéder à une reconnaissance plus forte.
Alors Bourdieu fait souvent des rapprochements avec Flaubert, évidemment, et notamment dans la distance entre la description froide d'une scène et puis ce qui se passe, par exemple l'empereur qui se fait fusiller. Bon, les gars, ils ont des beaux costumes, finalement, ils sont tout à fait calmes, même dans les regards qui peuvent s'échanger ou ne pas s'échanger entre des personnages à l'intérieur d'une composition. Il y a une sorte de distance, comme ça, que Bourdieu compare souvent avec Flaubert, avec l'écriture de Flaubert.
Il rappelle cette phrase de Flaubert en disant, ça s'applique parfaitement à Manet, c'est peindre bien le médiocre.
Ouais.
Et de manière telle que le médiocre n'est pas une influence sur le peindre bien.
Puis c'est une génération qui manie l'ironie. Le tableau dont vous parliez de l'exécution de Maximilien, effectivement, ça a l'air d'une peinture très froide et en fait ça traduit un drame. Donc il y a une espèce de discordance.
Et d'autant plus que dans ce tableau, Bourdieu le signale, c'est l'affrontement ultime, puisque dans ce tableau, il s'attaque à la représentation historique qui était classique chez les peintres-pompiers. C'est-à-dire, il a le sujet même, qui était le sujet par excellence des peintres conventionnels du 19e, et lui, il peint à sa manière ce type de sujet.
Bourdieu s'intéresse aussi beaucoup à la gravure, hein.
Ça, c'est moins connu, le Manet graveur.
Oui, parce que c'est là qu'on peut saisir, gravure. Justement, peut-être ouais. le faire. C'est là qu'on peut saisir la façon dont... Parce que la gravure, c'est une simplification du tableau. Enfin, en tout cas, c'est un état parfois préalable ou final okay. du tableau, en tout cas, qu'on remet à sa plus simple expression. Voilà, donc, ça permet d'avoir une étape dans la compréhension du peintre.
Et le Bourdieu était photographe, il a fait beaucoup de photos, ah, il était bon photographe. Parce que je pense à la gravure, la queue devant la boucherie, hein, il est très inspiré, là, soudain, devant cette gravure. Et bon, dans le noir et blanc, la photo, le noir et blanc, etc. Je me demande si son expérience de photographe ne lui a pas servi pour regarder tout ça. Comment on passe de trois dimensions à deux dimensions, par exemple. C'est une question qui se pose aux photographes. Comment je mets ça en place? Comment l'Éric, la mise en page, en place de ma photo?
Lui-même a pris plus de 2000 ou 3000 photos en Algérie quand il était en Algérie.
C'était pour accompagner l'enquête, en fait. C'était un instrument aussi de connaissance, la photo. C'était pas seulement esthétique.
Mais somme toute, tout ça, c'est encourageant. Hein. Ça montre que la révolution est possible.
Oui.
Vous avez participé, vous avez travaillé sur quelque chose que je trouve vraiment encourageant, je suis sérieux, parce que la révolution n'a pas forcément le visage qu'on lui suppose, elle peut arriver d'une façon inattendue, mais en tous les cas, au moins la révolution symbolique est possible.
Et surtout, elle est nécessaire pour que d'autres révolutions aient lieu, parce que pour que les gens se révoltent contre l'ordre établi, il faut qu'ils perçoivent l'ordre établi comme injuste. Donc ça fait aussi partie de la préparation de la révolution. Si ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie a eu lieu, c'est parce que le pouvoir en place n'était plus considéré comme légitime, n'était plus considéré comme juste, était considéré comme scandaleux, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens peuvent commencer à se dire qu'il faut peut-être se révolter.
Mais est-ce que des révolutionnaires se sont réclamés de Manet, à part en peinture sur le plan social, politique? Non.
Non, mais je crois qu'il y a des moments de convergence. Donc 48, on voit très bien qu'il y a une convergence entre une insatisfaction des peintres par rapport à cet état qui est envahissant et qui oblige à peindre d'une certaine façon ou à respecter un certain nombre d'institutions. En 70-71, on voit bien que la Commune aussi essaye de changer un certain nombre de choses dans ce domaine. Et un des premiers actes de la Troisième République, enfin dans sa phase, disons, de libération, quand elle commence à remettre en cause l'ordre établi, c'est de justement libérer les institutions picturales d'une trop grande emprise de l'État. Donc on voit bien qu'il y a un accompagnement entre les mouvements politiques qui se sont succédés au XIXe siècle et des moments aussi où la culture, que ce soit la peinture ou d'autres arts, contribue à se libérer des traditions, à se libérer de l'emprise de l'ordre établi. Donc en France, il y a une connexion assez claire. Bon, c'est pas vrai partout, mais enfin en France, c'est un accompagnement.
Oui, au temps de Manet, la peinture était un enjeu très important.
Bah, oui,
signification,
que...
pas directement politique, mais en tous les cas idéologique, extrêmement importante.
Chaque année, les salons donnaient lieu à une production journalistique absolument énorme, ouais, de commentaires sur les tableaux du salon.
Il faut dire qu'il y avait beaucoup moins d'images qu'aujourd'hui.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'est plus dans le même monde d'images. Hein. La peinture était importante, l'imprimerie se développait, les gravures se développaient, etc. Mais enfin, on n'était quand même pas du tout dans le même monde.
On était dans une rareté de l'image, donc toute image avait beaucoup plus de poids qu'aujourd'hui.
Tout à fait, oui.
Merci à vous deux, un livre très encourageant, finalement, somme toute. Manet, une révolution symbolique de Pierre Bourdieu. Je vous remercie Patrick Champagne et Christophe Charles. Merci.
Merci.
C'était Manet, une révolution symbolique, un entretien de Daniel Mermet. Merci à Christophe Charles et Patrice Champagne. Les cours de Pierre Bourdieu au Collège de France sont réunis dans l'ouvrage Manet, une révolution symbolique aux éditions du Seuil et Raison d'agir. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Alice Berger et Pierre-Yves Derolin. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duon. Et c'est Stéphanie Fromentin qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bon, écoutez, vous savez, j'ai l'habitude parce que je viens de parcourir la ligne de front pendant 2 ans, alors je connais tous ces cimetières. On n'est jamais mal accueilli. Mais je pars demain matin, donc mercredi, jeudi, vendredi, la météo est bonne. Donc je ne peux pas préjuger de mon horaire à l'heure près, mais enfin j'ai commencé par le Bois Bello, et puis après je ferai celui de Oise-Aisne, ouais, Ferrand-Ardenois, et puis après le lendemain Saint-Mihiel. Formidable, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, au revoir.
Qu'est-ce que vous allez faire là ?
Alors, le New York Times me demande de faire, de photographier des lieux de mémoire touchant aux troupes américaines pendant la Première Guerre mondiale. Bon, ils sont beaucoup battus en Picardie, dans l'Aisne, puis en Lorraine et en Alsace. Et c'est à partir de la contre-offensive de Saint-Mihiel, menée par les Américains, que la guerre est gagnée. Parce qu'à partir de Saint-Mihiel, près de Verdun, pas très loin de Verdun, la vapeur est renversée et on ramène les Allemands à la frontière. Donc c'est un endroit important. Donc je vais aller à Saint-Mihiel, au Bois Bello également, qui est près de Château-Thierry, qui est un endroit fameux, parce que malheureusement les Américains y ont perdu pratiquement 10 000 hommes. Et voilà, je vais donc photographier sur ces combattants. Il y a eu 1 million d'Américains qui sont venus en 1917 aider les Français, n'est-ce pas ?
Là, vous allez photographier les cimetières américains de la guerre de 14-18 ?
Oui, je vais aller photographier les lieux, les champs de bataille et les cimetières principaux où reposent les soldats américains qui sont venus pendant la Première Guerre mondiale. Il y a d'ailleurs certains endroits où il y a des soldats de la Première et de la Deuxième, car on s'est rebattu aux mêmes endroits.
Bonjour à tous et toujours en compagnie de Thierry Secrétan, photographe, petit-fils de Robert Ray et arrière-petit-fils de Victor Ray, qui ont fait la guerre de 14 ensemble, la guerre de 14-18, et qui en sont sortis vivants, avec la particularité d'avoir aimé la même femme.
C'est la plus extraordinaire histoire de guerre et d'amour de la guerre de 14.
Oui, parce que quand on lit les lettres, on se demande si le père de Robert couche avec sa belle-fille. Parce que c'est quand même ça. On comprend qu'il l'aime, mais est-ce qu'il va jusqu'à
est-ce
coucher avec...
Est-ce que l'histoire a été consommée ou pas ? Je laisse au lecteur le soin de le décider. Je n'ai pas de réponse absolument catégorique là-dessus. A priori, j'aurais tendance à dire que non, que ça reste une histoire très platonique. En même temps, il y a des lettres qui sont effectivement troublantes de désir avoué. Mon estomac se creuse, mes genoux tremblent quand je pense à vous. Enfin bon, et effectivement, là, on a un ton tout à fait amoureux, mais assez 19e siècle dans la facture. Robert, lui, écrivant et comme il parle, c'est-à-dire de façon beaucoup plus directe et beaucoup plus vivante. Mais c'est vrai que c'est un cocktail assez détonnant. Cette histoire d'amour à trois, c'est vraiment une entreprise pour sublimer la guerre, pour survivre au carnage, à la cruauté de la guerre, pour arriver à la sublimer.
Et ça va fonctionner, parce qu'ils vont survivre tous les deux, quoi.
La main de la chance. La main de la chance a encore été bonne aujourd'hui pour moi. Elle a écarté un obus de 105 qui a tué 2 chevaux à côté de moi et un servant. Et moi, je n'ai pas une égratignure. Et quand on sent bien que dans ses lettres, il lui répond souvent « Ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien de se cacher à outrance, d'essayer de forcer la main de la chance. On voit des pauvres gars prendre un éclat d'obus au fond d'une sape et d'autres se promener les mains dans les poches sous la mitraille et ne pas ramasser un éclat, ce que d'ailleurs fait beaucoup Victor et ce qui inquiète beaucoup Robert. Mais il y a véritablement une espèce de rigueur à ne pas défier la chance, mais à ne pas non plus lui forcer la main. Donc il est toujours très modeste, très humble vis-à-vis de cette chance qui va décider de son sort ou pas.
Mais justement, vous n'avez pas été contacté pour en faire un film ?
Il y a des projets, mais dans l'immédiat, ce qui est certain, c'est qu'il y a une pièce de théâtre qui va être créé au mois d'octobre 2014 par le théâtre du Grand T à Nantes, qui est une scène nationale, pièce qui va être mise en scène par Patrick Pinault, et donc qui est destinée à tourner un peu dans toute la France pendant les commémorations de 1914 à 1918.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pères et de fils qui ont fait la guerre ensemble.
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plus qu'on ne le croit. Ouais. C'est ma grand-mère qui a conservé ces lettres, alors, de façon très amoureuse. Et elle parlait très peu de la guerre de 14. Mais ce qui m'a déclenché, c'est que je me suis souvenu d'une réflexion qu'elle faisait très souvent en disant, pendant la guerre, la poste marchait très bien, je recevais une lettre chaque jour, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, à chaque fois que j'ouvrais l'enveloppe, de me dire que c'était peut-être la dernière. Et ça, c'est assez terrible de se payer un classique comme ça 1200 fois pendant 4 ans, la pauvre. Ça l'avait marqué.
C'est pas compliqué, si on veut en savoir plus, c'est 1914-1918, Le temps de nous aimer, aux éditions La Martinière, un livre de Thierry Secrétan.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Dans tous les domaines et sur tous les fronts, la lutte contre le cancer progresse. Alors donnons aux chercheurs les moyens de poursuivre leurs avancées et donnons accès aux malades aux thérapies les plus innovantes. La Fondation ARC, c'est la première fondation française 100% dédiée à la recherche sur le cancer. Soyez acteurs des progrès de la recherche. Faites un don sur fondation-arc.org.
J'éco-rénove, j'économise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Si en hiver, vous payez d'importantes factures de chauffage pour avoir une maison où il fait toujours froid, eh bien, ça va changer. Aujourd'hui, vous pouvez faire financer jusqu'à 80% de vos travaux d'économie d'énergie grâce à des aides publiques. Pour réduire vos prochaines factures, allez sur rénovationinfoservices.gouv.fr ou appelez le 0810 140 240, prix d'un appel local depuis un poste fixe.
J'éco-rénove, j'économise. 0810 140 240.
C'était un message du gouvernement.
France Inter présente Raymond Depardon, la rétrospective, du 14 novembre au 1er décembre à la Cinémathèque française à Paris. Toute l'œuvre d'un des documentaristes français les plus subtils et les plus essentiels à voir ou à revoir à la Cinémathèque française. Faits divers, profils paysans, urgence, dixième chambre, instant d'audience, la vie moderne. Et ne manquez pas Raymond Depardon pour une rencontre exceptionnelle avec le public les 16 et 23 novembre. Retrouvez Raymond Depardon, la rétrospective, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, le Festival d'automne à Paris et l'Opéra Comique présente Written on Skin. Événement lyrique de l'année 2012, Written on Skin transfigure un mythe médiéval en parabole sur le désir. Quelle est cette peau sur laquelle s'écrit l'histoire ? Découvrez-le à l'occasion de la création parisienne de cet opéra composé par George Benjamin sur un texte de Martin Krimp et mis en scène par Cathy Mitchell. Retrouvez Written on Skin du 16 au 18 novembre à l'Opéra Comique dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À suivre, Frédéric Lodéon, bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Jean-Marc Ayrault parlait aux députés socialistes ce matin à l'Assemblée. Cet après-midi, il s'est exprimé devant tous les élus dans l'hémicycle. Le chef du gouvernement a réagi aux incidents d'hier. Il y a eu des échauffourées lors des cérémonies du 11 novembre sur les Champs-Élysées à Paris. François Hollande a été hué et plus de 70 personnes ont été interpellées. Jean-Marc Ayrault a donc prévenu, la justice sera ferme face aux atteintes à l'ordre public et aux droits de la République. Une circulaire va, dit-il, partir dans quelques heures. Elle s'appliquera partout dans toutes les régions. Jean-Marc Ayrault a par ailleurs accusé le président du groupe UMP, Christian Jacob, de contester la légitimité de l'élection de François Hollande. Depuis une heure maintenant, 24 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis à l'Élysée autour de François Hollande. Le chef de l'État accueille la deuxième conférence consacrée à l'emploi des jeunes en Europe pour venir au secours des 6 millions de jeunes européens au chômage. En juillet dernier, les dirigeants européens ont décidé de débloquer 6 milliards d'euros en faveur des régions d'Europe les plus touchées. Alors, il ne s'agit pas là de lancer de nouveaux instruments pour cette conférence, mais de s'assurer que tous les moyens sont mis en œuvre pour les aider et obtenir des résultats concrets dans les 2 ans qui viennent. C'est une information du Monde cet après-midi. Arnaud Montebourg présentera demain en Conseil des ministres un plan de résistance économique. Le ministre du Redressement Productif veut aider les entreprises qui connaissent des difficultés de trésorerie mais qui sont jugées viables. Selon le quotidien, la mesure la plus emblématique sera une réactivation du Fonds de Développement Économique et Social. Créé en 1955 et géré par le Trésor, le FDES permet à l'État en fait d'octroyer des prêts aux entreprises à des taux préférentiels. Il est encore doté de 80 millions d'euros, mais il n'est plus vraiment utilisé. Il se verra donc doté de 300 millions d'euros supplémentaires. Seule la moitié des trains à peine plus circulent depuis ce matin entre Paris et la Normandie. Le trafic est sérieusement perturbé par une grève spontanée suite à l'agression d'un contrôleur hier. On ne sait pas encore si le mouvement sera reconduit demain. Pour les fonctionnaires, l'appel à la mobilisation est lui lancé pour début décembre, du 9 au 13, font savoir les syndicats qui dénoncent la baisse du pouvoir d'achat et le gel des salaires. Les 8 syndicats, dont la CGT, la CFDT et Solidaires, demandent à être reçus par la ministre de la fonction publique, Marie-Lise Lebranchu. Force ouvrière n'a pas voulu s'associer à ce mouvement. 6 mètres de diamètre, l'énorme fraiseuse chargée de percer un tunnel de reconnaissance pour la future ligne TGV entre Lyon et Turin est entrée en action aujourd'hui. Cette autoroute ferroviaire qui verra le jour en 2025 a pour but de débarrasser la route du million de camions qui l'empruntent tous les ans. Le tunnel fera 57 km de long. Le projet est financé à 40% par l'Europe, mais la France devra quand même débourser un peu plus de 2 milliards d'euros. Jugé trop coûteux et inutile par ses détracteurs, le projet a souvent été la cible de nombreuses manifestations, parfois d'ailleurs violentes côté italien. Vous écoutez France Inter, 16h03.
En 2013 et 2014, France Inter commémore le centenaire de la Grande Guerre.
Nous abandonnions un monde qui était bâti sur tout un ensemble de réalités sociales et morales. Du jour au lendemain, tout cela était remis en question.
Jusqu'au mois de juin, 3 thèmes de réflexion à retrouver dans les émissions de France Inter pour nous aider à nous réapproprier notre histoire commune. Cette semaine, première partie, la mondialisation de la guerre. Demain à 12h30 dans Carnet de campagne, à 13h30 dans La Marche de l'Histoire, et ce dimanche à 16h dans Il existe un endroit. Tous les rendez-vous sur franceinter.fr.
Typhon aux Philippines.
Radio France et la Fondation Architecte de l'Urgence lancent un appel aux dons pour la reconstruction des zones dévastées.
Pour tout renseignement et pour faire un don, www.archi-urgent.com.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Et bonjour Laetitia Gaillet. On vous retrouve à 17h pour d'autres informations.
Eh bien, tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. À quoi servent les concours? Sont-ils toujours bien francs? Ben voilà, ce sont des réponses difficiles à donner. En tout cas, quand il y a un grand concours international, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent, des jeunes, qui se rencontrent, qui s'écoutent. Rien que ça, ça vaut la peine. Après ça, est-ce que les résultats sont tout à fait conformes au talent? C'est difficile à dire. D'abord, chacun juge le talent à son aune personnelle. Donc, simplement, c'est une mise en lumière. On va prendre ça comme ça. Et justement, le concours von Cliburn aux États-Unis, à Fort Worth, au Texas, nous fait parvenir à travers Harmonia Mundi, belle maison de disques, les portraits musicaux des 3 premiers. Alors voici d'abord Vadim Kholodenko, qui est un Ukrainien qui vit à Moscou en ce moment, et puis qui est venu, en avion de Moscou jusqu'aux États-Unis. Il a composé dans l'avion d'ailleurs la cadence du concerto de Mozart qu'il a interprété, donc ce passage libre que le soliste a le droit de jouer à sa guise. Il a été acclamé et un journal de Cincinnati a dit, le public de Fort Worth l'a acclamé comme une vedette de rock. Eh ben nous, on n'est pas dans le rock, mais on peut admirer ceux qui ont une belle énergie aussi. Et voici donc Vadim Kholodenko dans la deuxième des 12 études d'exécution transcendante de Franz Liszt. Thank you. La deuxième des 12 études d'exécution transcendante de Franz Liszt par le gagnant de la médaille d'or du concours Von Cliburn, tout récent, qui se tient à Fort Worth, au Texas, je le rappelle. Et nous avons entendu Vadim Holodenko, qui est le grand gagnant. Il a reçu aussi d'autres distinctions, un prix pour la musique contemporaine, prix de fondation, de mécène privé, etc., etc. Et voici la deuxième, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est le premier qui va faire carrière. On a vu très souvent que le premier prix disparaissait dans les limbes, alors que le deuxième ou le troisième, ou même quelqu'un qui n'était même pas arrivé en finale, faisait un brillant trajet musical. Alors voici donc maintenant une Italienne qui a reçu en plus de la médaille d'argent le prix du public, ce qui est très bon signe. Elle s'appelle Beatrice Rana et elle est fille de musicien. Elle est toujours étudiante d'ailleurs, elle continue ses études et elle a quand même ses moyens extraordinaires qui ont réussi à épater le jury et le public donc du concours Von Cliburn. La voici, Beatrice ou Beatrice, comme voudrait Rana, dans deux études tirées des études symphoniques de Robert Schumann.